Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Nous sommes en mai 2024, donc cet épisode va certainement sortir le 2 mai 2024. Donc on va revoir un petit peu les news qui se sont passées les 15 derniers jours depuis le dernier épisode. Et Alex, tu sais, ça fait un mois qu'on a passé un anniversaire, tu sais lequel ?
le quatrième bougie de Double Slash, non ?
Ouais, ça fait 4 ans. 4 ans que le podcast hésite. Voilà. Donc, 4 ans qu'on était en confinement. Bon, on va pas parler de ça.
Non, on va pas parler de ça. Mais c'est cool. Et ce qui est super drôle, c'est qu'on a commencé le podcast, on n'y connaissait rien du tout. On s'est appelé, on a dit, ouais, vas-y, on le fait. Ouais, vas-y, peu, on y va. Et on connaissait pas du tout le process et comment ça marche. On est passé de l'audio, après, on est passé à la vidéo, on a fait le site, on est passé. On a fait notre propre système d'hébergement, des analytics, où on a un peu galéré aussi là-dessus. C'était pas toujours facile. Ouais. Mais cool, là, super intéressant. Super intéressant.
Ouais, 4 ans déjà. Donc.
Et 4 ans. Et en plus, sans faire un gros spoiler, c'est pas fini. Pas fini.
Ah non. Ah non, justement, on allait arrondir. Justement, j'allais annoncer que c'était fini, mais t'as cassé ma blague.
Ah, ok, bah, je suis désolé. Non, on continue, évidemment. On continue
et on va certainement revoir un peu les formats. On est en train de réfléchir là-dessus. Petite évolution, on va pas tout changer, hein, vous inquiétez pas. Moi, je pensais peut-être on est toujours en saison 1 depuis 4 ans. On va peut-être passer à la saison 2.
Ouais, exactement. Ça serait peut-être pas mal de faire de marquer une rupture. Mais de toute façon, on va en parler et on vous tiendra au courant sur l'évolution, sur quelle est la direction que prend Double Slash. Mais de toute façon, c'est plutôt des choses cool et super intéressantes. On fait un petit sommaire, Patrick ?
Ouais, vas-y, ouais, je te laisse faire.
Allez, épisode de news. Donc, on va parler de React qui sort en version 19. On va parler aussi d'un site qui a fait le choix, en fait, de prendre toutes les librairies JavaScript et de toutes les comparer. C'est-à-dire, OK, comment on fait du styling? Comment on vient faire un event click en React, en Vue, en Lit, en toutes les librairies JavaScript, ce qui nous permet vraiment de comparer vraiment la même fonctionnalité, comment ça s'écrirait en tel langage, telle librairie. Donc ça, c'est plutôt cool. On va revenir sur, évidemment, le drama de Redis, qui change un petit peu les lignes avec Open Source, comment ça réagit. On va parler de Node qui passe en version 22 avec des choses par défaut qui sont plutôt intéressantes. On va parler aussi d'un site pour apprendre le JavaScript totalement gratuit et on va dire plutôt bien coté parce que les bases sont quand même hyper solides. Et on va aussi discuter d'une technique, d'une vidéo, d'une personne qui nous montre comment rendre un site WordPress totalement statique. Voilà un petit peu le programme et au passage, il y aura d'autres choses intéressantes au passage. On attaque tout de suite par peut-être Component Party.
Yes.
C'est le site qui est totalement ouvert, sur lequel on va retrouver toutes les librairies JavaScript, donc les frameworks qu'on a l'habitude de voir. Et chaque système, en fait, va être déclaré. Donc, toute la partie réactivité, comment on déclare un state, comment on update un state, comment on compute un state, et ce, en fait, dans toutes les librairies, quoi. Vue 3, Angular, Lit, Ember, Solid, tout. Et ça, c'est quand même super sympa, je pense, pour les développeurs, en fait, qui sont en migration, où, en fait, ils ont un background déjà sur React, par exemple. Ils arrivent sur un projet, c'est en Vue 3. Comment on fait ? Ça peut être super intéressant pour voir les différences et apprendre aussi les différences entre ces librairies.
Ouais, en fait, c'est super intéressant, en fait, quand tu pratiques, quand tu es habitué à faire du React ou du Vue, et de voir un petit peu les différences au niveau du code. Angular, tout ça, et éventuellement de tester ces frameworks, en fait, ces librairies pour. En fait, ça permet de voir, en fait, tu dis, ah ben, en fait, c'est pas si compliqué que ça à faire avec ce framework. Tu vois, ça peut donner envie aussi de tester, et puis ça permet de comparer aussi la simplicité ou pas de certains frameworks. Dans l'ensemble, ça se ressemble de plus en plus, hein, les systèmes.
Ouais, ça, on tend quand même vers une sorte d'uniformisation, quoi.
Ouais, il y a vraiment de plus en plus concis le code et de plus en plus ressemblant avec des systèmes de réactivité, tout ça. Donc, on est vraiment. Ça, quand même, ça se standardise, en fait, on va dire. C'est assez clair, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Avec Signal qui se standardise dans tous les un peu les frameworks, Reactivity, tout
ouais,
ça.
Alors,
donc, vraiment,
c'est pas encore intégré partout. On en avait parlé la dernière fois où il y a une, je sais plus comment ça s'appelle, quand tu viens soumettre une idée ou en tout cas une feature, et après il faut que ça soit approved par toute la communauté. Mais Signal rentrerait peut-être dans le JavaScript natif, quoi. Alors là, si on a un système de réactivité
au sein du
JavaScript...
C'est marrant que tu parles de ça, parce que je l'ai vu aussi, je crois que c'est hier ou avant-hier, et j'ai vu que c'était un draft, justement. Et en fait, ça m'a surpris. En fait, je me suis dit, c'est quand même dingue, quoi. Alors, on a déjà des systèmes de réactivité dans JavaScript en natif, là, aujourd'hui, mais là, si on avait un système de Signal carrément natif, ça serait énorme. Donc, je pense que... Ne serait-ce que
là,
pour les web components, tout ça, ce serait...
C'est plus du tout le même deal, et les librairies type React, Svelte, Vue 3, Angular, tout ça, vont perdre énormément. Ce qui pourra peut-être différencier, c'est uniquement la syntaxe, quoi. La manière dont tu l'écris, tout. Intéressant, en tout cas, un site, évidemment, on met tous les liens sont dans la description.
Ouais.
Et c'est un site plutôt bien fait, à but
plutôt bien
pédagogique
fait. Et ça peut même...
et très didactique.
Vois, je pensais que ça peut même servir un jour, toi tu es plutôt spécialisé en Vue, on va dire, et un jour on te file un projet en React, par exemple. Tu sais le faire en Vue, mais pas en React, ça te permet de voir, c'est comme ça que je fais d'habitude en Vue, voilà comment je fais en React. Tu vois, ça permet aussi de peut-être d'évoluer aussi.
Complet.
Nouveau projet, quoi.
Excellent. Ouais. Excellent. Allez, on bascule sur un projet complètement fou dans lequel on en avait déjà parlé, là. Il y a 15 jours ou
peut-être
un mois. Je ne sais pas. Sur le retour de WebAwesome, les fontes Awesome. on a tous connu les icônes de fontes Awesome. Mais là, en fait, ce qui nous a fait juste halluciner, c'est le montant
qu'ils ont récolté, qu'ils ont réussi à récolter. En fait, à la base, ils demandaient juste 30 000 dollars. Et ils ont eu 723 000 dollars. Enfin, c'est un truc de fou.
C'est
incroyable. Je sais pas si ça va continuer, ça va monter au million, mais c'est juste fou pour un projet de librairie Web Component d'arriver à lever autant d'argent. Donc, ça suscite beaucoup d'intérêt. On voit qu'il y a une forte demande. Je ne sais pas pourquoi ils donnent autant. Je voudrais bien savoir les motivations des personnes qui donnent. Mais c'est fou, quoi. 723 000 dollars. Quand tu penses qu'il y a certains projets open source qui ont du mal à avoir de l'argent, c'est peut-être la solution.
Kickstarter, ils ont réussi. Après, tous les Kickstarter, tout ça, pour que le projet soit viable et marche et il y ait une sorte de buzz qui se mette tout autour du projet, il faut vraiment communiquer. C'est un vrai job et il ne suffit pas de mettre sur Kickstarter pour lever 700 000. Mais ils ont quand même bien réussi à... ils ont réussi, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Faire une levée à 700 000.
Ouais. Il y a une partie de notoriété aussi, je pense que Fontosome est quand même super connu, on va dire, et très utilisé. Et justement, je voulais en parler juste après, tu vois, de Fontosome. Mais peut-être que ça a joué en fait sur le fait que ils sont connus, ils ont fait des trucs robustes et ils proposent cette nouvelle librairie, donc peut-être que les gens ont confiance et on se dit c'est ce qu'on veut, c'est à suivre. Bon, après, je crois qu'en donnant de l'argent, tu accèdes à la version pro, je crois. Donc, tu as quand même quelque chose en contrepartie quand tu donnes de l'argent. Donc, tu donnes pas pour rien, quoi. C'est pas juste un don.
Souvent, en fait, le système de Kickstarter, c'est tu as un premier package, un deuxième package, un troisième package. Et selon
le montant que tu vas donner, tu choisis ton package et bah, dans le paquet, il y a plus ou moins de features, de librairies et tout ça. Et après, le pattern free et pro, voilà, tout le monde fait ça aussi. Tu peux utiliser une dizaine de composants ou une vingtaine de composants, qu'importe. Et si tu passes sur la version pro, bah, tu en as 40. Et voilà, tu as plus de composants, tu as peut-être plus de fonctionnalités. Voilà, c'est le pattern qu'on trouve un peu partout sur les librairies de composants qui deviennent quand même de plus en plus payants. Mais il en existe quand même beaucoup qui sont encore, gratuites. Mais attends, tu gagnes tellement de temps, Pat. Tu gagnes tellement de temps.
Oui, non, mais c'est pas ça. C'est que c'est normal. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas choquant que certaines choses deviennent payantes, parce que si on veut assurer la pérennité du projet, en fait, il faut pouvoir, ne serait-ce que rémunérer les gens qui travaillent dessus. Donc, ouais. Parce qu'au bout d'un moment, le gratuit, ça c'est limite. Et on a un loyer à payer à la fin du mois. Donc, développeur open source, c'est cool, mais ça te fait pas manger, quoi. Donc, voilà.
Et on va en reparler sur la suite.
Carrément. Ouais. Je voulais juste parler vite fait de Fontosum. Parce que la dernière fois, on a dit. À chaque fois, on se moque quand même. On se moque, on dit ouais, non, mais qui utilise encore Fontosum et tout.
Ouais.
On est moqueur.
On est taquin.
Et en fait, non, on est taquin. Et en fait, je vais travailler sur un projet de CSS commun pour plusieurs applications pour un client. Et en fait, donc ils ont ce besoin d'icônes, en fait, utilisées dans n'importe quelle application, tu vois. Et c'est vrai que nous, la plupart du temps, dans les projets React, Vue, tout ça, on a tendance à intégrer directement les icônes dans le code avec le compilateur. On appelle l'icône, ça l'intègre directement en SVG. Et je me suis rendu compte, en fait, on discutait en réunion du projet, et la personne qui est plutôt habituée à travailler sur des sites classiques, tu vois, avec du CSS, PHP, machin, lui, de suite, oh bah non, Fontosum. Et là, j'ai bondi, tu vois. Non, mais ça va pas.
Tu l'as attaqué à la gorge, non?
Donc là, débat, etc., machin, et je me suis rendu compte que c'était pas si simple. Voilà.
C'est pas si simple de quoi de faire bouger les lignes en agence.
Non, c'est pas si simple de dire bah en fait Fontosum j'utilise pas et on fait des icônes en fait. Et en fait le truc c'est que ça dépend du projet, ça dépend du nombre d'icônes, etc. Donc je vais me lancer dans un truc. Wow. Je vais comparer. donc c'est un petit teasing, tu vois. Il y aura un article prochainement et certainement une vidéo. Je vais comparer en fait les techniques pour intégrer les icônes. À partir des fontes jusqu'à l'intégration normale des SVG comme on fait dans les applications, comparer les différences. Il y a aussi les sprites SVG aussi, il y a différentes techniques. Je vais essayer de comparer les techniques et voir ce qui est le mieux et le plus adapté suivant les projets, puisque effectivement là le projet sur lequel je vais bosser, il y a plus d'une cinquantaine d'icônes, tu vois, donc quand tu dois les intégrer c'est un peu plus compliqué, etc. Donc voir ce qui est le mieux adapté, voilà. Donc petit teasing sur futures vidéos et articles. Bien. Sur
tu as toute mon attention. C'était une petite surprise dans laquelle je n'étais pas du tout pour.
Ouais, je n'en avais pas parlé, tu vois.
C'est super intéressant. Non, mais c'est super bien. Parce que c'est vrai qu'on a tous notre manière de faire. Et je pense que tu vas aller sur la performance, la facilité d'intégration, des choses comme ça, quoi. Les designers, tout. Ouais.
Si tu veux, à un moment, quand tu as 3-4 icônes, bon, tu les intègres, voilà, tu mets un SVG, pas de problème. Quand tu arrives à un certain nombre d'icônes, là, la question se pose, en fait, entre le poids d'une fonte icône, le poids d'un sprite SVG ou le poids d'un SVG répété plusieurs fois. Tu vois, je parle aussi de performance, hein, surtout. Hein. Donc, ouais. Et la praticité aussi, comment je l'intègre facilement, tout ça. Donc, à suivre.
Nice. Petit teasing, ouais. C'est bon, ça. Petit teasing. Allez, on déroule. React qui évolue toujours. Alors, on ne sait pas si c'est React ou c'est Next qu'il faut dire, mais...
Je suis taquin.
Non, React qui passe en bêta, qui évolue en version 19.
Bientôt,
qu'est-ce que ça amène de... On est sur quoi ? On est sur une évolution classique ou on est sur des gros breaking changes qui amènent vraiment des vraies nouvelles features.
Non, il y a pas de. Alors déjà React. Alors Il évolue, ouais. Alors, ça faisait un moment quand même qu'on était sur la 18. Donc, la 19 va arriver. Il n'y aura pas le compilateur. On a déjà parlé du compilateur optionnel de React qui devrait arriver plus tard, qui était prévu dans la 19, mais finalement, il est retardé pour qu'il travaille dessus, tout ça. Donc, il y a une version 18.3. Si on remonte un peu, je crois qu'il y a la version 18.3 qui permet déjà de préparer cette migration, en fait. Ouais, c'est ça. Tu peux upgrade 18.3 et en fait, c'est un peu... une pré-version de la 19, donc la 19 est en bêta, elle est testable déjà, elle est disponible. Il n'y a pas de breaking change en fait. React ne fait jamais vraiment de gros breaking change entre les versions. Donc tu as un code React qui fonctionne, tu passes à la 19, dans l'ensemble ça fonctionne. Il y aura peut-être juste les contextes qui vont changer, donc peut-être il y aura peut-être une évolution à ce niveau-là, mais c'est souvent en interne dans les systèmes de states aussi. Il n'y a pas de breaking change. En fait, on est habitué à React de jamais avoir de gros trucs qui pètent dans tous les sens, quoi. Donc, voilà. Donc, les évolutions...
Le système d'action ? Le système d'action ?
Ils ont intégré le système d'action qu'on retrouve un petit peu dans Next, tout ça. En fait, c'est pour gérer... Alors, toi, tu l'as déjà dans... si tu descends un petit peu, il y a un exemple de code. C'est ce qu'on retrouve déjà dans certains frameworks comme Next, tout ça. Qui gère l'état en fait, c'est un peu encore le deuxième, il y en a un autre derrière, descend encore un peu, ouais c'est celui-là, use action state, tu vois, où tu as différents états en fait par rapport à quand tu as envoyé ta requête pour la mutation de ta data, si tu es en pending, si tu as une erreur, si tu as un submit, voilà, c'est ça, tu connais déjà, tu vas me dire dans Nuxt tout ça, on l'a déjà.
Exactement. En fait, c'est quand tu vas faire une action asynchrone, tu vas avoir différents états, le résultat de tes data, est-ce que tu es en attente du retour, est-ce que tu as une erreur, et donc en fait, tu peux déconstruire ces objets-là et interagir directement. Ok, voilà.
Il y a différents hooks d'actions qui sont intégrés dans React 19. Donc, c'est directement dans la librairie. C'est pas dans un meta framework, c'est vraiment dans React. Donc, il y a différents hooks comme ça qui sont intégrés au niveau du form, au niveau de action state. Tout ça, il y a plein de trucs qui sont. Donc, ça fait partie des nouveautés. Tu vois, use action state qui est vraiment une nouveauté. Donc, c'est pas mal pour gérer tout ce qui est promesse, tout ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Ça me surprend que ce soit intégré directement dans la librairie, puisqu'on est plutôt habitué à le retrouver dans des meta frameworks, mais bon, on va dire tant mieux. Il y a ça, il y a un hook qui s'appelle
Use. Moi, ça ne me surprend pas. quand les mecs de React passent chez Next et Next React et machin, la frontière devient floue.
Ouais, mais tu vas voir.
Après, je comprends.
Et il y a un hook qui s'appelle Use, qui permet c'est une sorte d'API pour les promesses aussi, qui est pas mal. Il y a une grosse nouveauté aussi qui est pareil, étonnant que ça soit dans React, mais bon. À la base, React devait rester une librairie simple, en fait, et de vue, tu vois. Et là, en fait, on rajoute des fonctionnalités comme un meta framework. Bon, c'est la volonté des gens qui travaillent dessus. Donc, la gestion du head aussi, qui arrive. Donc, tout ce qui est head de la page, en fait, maintenant, tu peux mettre des scripts, des styles, des meta titles, tout ça, machin, qui sont, voilà, c'est directement, tu peux le gérer directement via React et pas un meta framework. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont... Le contexte aussi est simplifié, le système de contexte. Il n'y a plus de provider, tout ça. Donc voilà, des évolutions, des petites évolutions. Il évolue, il est bien, il est cool. Voilà, super. Des choses intégrées qui sont directement disponibles dans React. Donc voilà, pas mal. Et donc à tester. Et donc, il y avait une petite vidéo. J'avais mis une petite vidéo de... Vas-y, je te laisse faire l'imitation.
C'est quoi ? Ah, de Westboss.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il dit, Westboss ? Hey, Westboss ! Salut, c'est Westboss ! Et qu'est-ce qu'il dit, Westboss ?
Westboss, il a fait une petite vidéo de 2 minutes où il explique un peu les principales nouveautés. Donc, c'est pas mal comment le hook use est utilisable, tout ça, pour les promesses, tout ça. Donc, c'est pas mal. On mettra le lien pour la regarder, c'est pas mal. Westboss !
Mais, salut, c'est Westboss ! C'est Westboss !
Tu fais bien.
Non, mais après, c'est super intéressant. Après, lui, il a une formation qui vend sur du React depuis très, 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 très longtemps. Il les met à jour. Et il est toujours, il se tient toujours à la page sur ces évolutions-là. Donc, super, super, super intéressant.
Voilà. Et dans la foulée, Voilà, Ryan Florence, qui est le co-créateur de Remix, le framework, suite à, ce, à la nouveauté de React 19, en fait, a déjà fait quelques tweets en expliquant qu'ils allaient supprimer les choses. Enfin, que certaines choses disponibles dans React, bah, ça, ça permettra de ne plus utiliser en fait, les choses qui sont... En fait, ils avaient rajouté dans Remix des balises links, meta, tout ça, pour gérer head, etc. En fait, bah, vu que ça sera directement dans React 19, en fait, bah, on pourra utiliser directement React 19, les fonctionnalités de React 19, au lieu d'utiliser celles de Remix. Donc, ils vont enlever des choses, en fait, tu vois, dans Remix, parce ouais. que dans React 19, ils ont rajouté des choses. Donc, il y a tout ce qui est la gestion du head, et ils parlent aussi des... si tu descends un petit peu, il y a un premier tweet, ils parlent aussi des actions aussi, tu vois. Donc, avec le nouveau hook use, en fait, on va pouvoir enlever certaines fonctionnalités de Remix aussi, pareil, et passer directement sur celle de React. Donc, c'est intéressant de voir que le framework React, enfin, la librairie évolue. Et au-dessus de ça, en fait, les métriques framework bah, peuvent profiter de ça et enlever un petit peu de code. Et voilà, tout ça devient natif.
Ouais, bien sûr. Après, si plus c'est natif, mieux c'est. Donc, on est complètement d'accord.
Voilà.
Ça marche. Ça reste dans la même veine, ça marche. Allez, on revient sur un sujet qui a fait un peu polémique dans le monde open source. C'est ouais. le changement, en fait, de licence du core de Redis qui a changé et qui a fait un drama en mode plein de gens. On dit « Ouais, c'est scandaleux, tout. » Pour bien comprendre, bon, alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode... tout simplement, le core en fait de Redis était open source pendant très longtemps. Sauf que aujourd'hui, la plupart des contributions à cette librairie open source étaient faites par des boîtes privées qui ont besoin d'argent. Et une des plus gros contributeurs, c'était Redis Lab, qui en fait vient utiliser cette techno-là et met à disposition plein de services et plein de technologies autour, mais surtout du service cloud. Et donc, c'est comme ça qu'il gagnait de l'argent. Sauf qu'à chaque fois qu'il développait des nouvelles fonctionnalités, bah, les concurrents pouvaient utiliser aussi cette techno parce qu'elle était open source. Et donc, bah, ils ont bougé quelques lignes dans les licences pour dire bah en fait non maintenant c'est plus tout à fait open source. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est une bonne manière de faire ça,
il y a débat.
On va pas rentrer dans cette polémique là. Moi je vais juste quand même rappeler quand même que l'open source c'est super bien, sauf que justement quand c'est une seule boîte qui fait et qui contribue au projet, bah, c'est un peu normal qu'elle a un droit de regard. Donc, ce qui veut dire que la pérennité du projet tient aussi à son acteur principal qui va le maintenir. On se rappelle du débat qu'on avait eu avec Vercel, Next et React, Facebook et tout ça. Bah ouais, c'est eux qui contribuent le plus, donc bah c'est eux qui tordent un peu le modèle, quoi. Donc oui, c'est open source, mais à un moment donné, vu que c'est eux qui payent, c'est difficile d'aller contre le système, quoi.
Ouais. Et donc, dans la foulée, ils ont fait un fork très rapidement, en fait, quasiment quelques jours après, en fait, l'annonce de changement de licence. Et ils ont fait un fork qui s'appelle Valky. Tu as le nom, tu as le nom en fait, Key Value, voilà.
Parce que... ouais, Key Value.
Ouais. Donc, bah, j'aime bien le nom.
Bah bien sûr. Non, c'est plutôt bien amené. Après, et objectivement, ok, je comprends l'idéologie derrière du pur open source, tout, c'est top là-dessus, je comprends parfaitement. Après, il faut aussi comprendre que bah, la boîte, elle a besoin d'avoir une pérennité.
Ouais.
Et voilà. Mais peut-être qu'ils y sont allés peut-être aussi un peu trop fort sur bouger la licence.
Ouais.
Peut-être que c'était un peu too much. parce qu'ils avaient déjà fait, en fait, ils avaient déjà plein de fonctionnalités qui n'étaient que disponibles que sur leur cloud.
En payant, je pense
aux extensions ou je ne sais plus exactement laquelle, mais voilà, tu pouvais y accéder que si tu passes chez eux. Bon, bah, là, ça se tient, ça se tenait. Peut-être que là, ils ont bougé un peu. Mais de toute façon, tout l'histoire de Redis, il y a une intrication entre des acteurs majeurs qui ont donné du temps et de l'énergie. Et c'est là où c'est pas cool. C'est que, en fait, tu as plein de gens qui ont investi beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur l'open source. Et après, on s'accapare le projet et on bouge les lignes, quoi. Là, c'est là où c'est éthiquement, c'est un peu limite, quoi.
D'accord. Bah, on avait vu un peu la. Bah alors déjà, Valky s'est poussé par tous les gros, hein, AWS, Oracle et compagnie, Google Cloud et tout ça. On voit que c'est eux qui ont vraiment poussé là-dessus parce que eux, ça les arrange pas en fait que ça devienne que les licences c'est plus open source, etc. Donc on sent qu'il y a. Alors on n'est pas un podcast sur le libre. Hein. je sais pas comment il s'appelle, LibreCast ou je sais pas quoi. Non plus du libre et de l'open source, mais on voit quand même, et c'est un problème récurrent en fait dans l'open source avec les gros acteurs, c'est que il y a beaucoup de gros acteurs et AWS et compagnie, hein, Google et compagnie, qui profitent en fait de ces choses open source qui sont parfois développées par un mec en Alaska tout seul. Donc ils font énormément d'argent, je parle pour Amazon, sur des systèmes open source
et, ils payent pas la licence
et ils payent pas de licence, ils ont tendance à pas rétribuer correctement les gens, tout ça, et tu vois, et quand t'as un truc qui change de licence comme Redis, et d'un coup, ah bah non, il faut que ça reste open source, vas-y on va faire Valky et puis comme ça reste open source. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un gros débat, c'est open source, mais alors oui, pour les gens comme nous, on utilise open source, c'est cool, il faut contribuer un petit peu à tout ça, mais les grosses boîtes comme ça qui font énormément de milliards de dollars sur des systèmes open source, ça se discute, quoi. Bon.
Ouais, c'est, voilà. Ça se discute, mais on revient à tout, la gouvernance. Parce que si demain, en fait, Amazon contribue à Valky... Et maintient Valky. Est-ce que demain ils peuvent pas bouger les lignes? Bon, après là, c'est apparemment porté par la fondation Linux.
Ouais, ils l'ont de suite la fondation Linux.
Au moins, si tu veux, bah c'est justement la gouvernance s'est organisée pour avoir une sorte de garde-fou pour éviter justement toutes ces dérives. Ouais. De changements.
Ouais, on avait eu la même chose avec MySQL. À un moment aussi qui avait été repris par je sais plus si c'était Oracle ou je sais plus, et ils avaient de suite fait un fork aussi pareil, enfin c'était toujours la même histoire.
Au final
MySQL est toujours resté open source et il y a pas vraiment, enfin il me semble pas qu'il y ait de gros changements, donc finalement c'est, il y a eu ce mouvement,
vois,
pas grand chose.
Je sais pas, l'avenir nous le dira en fait, si on est sur un vrai changement ou on fait du bruit pour pas grand chose, tu vois, et au final parce que toutes les boîtes qui ont une infrastructure avec Redis, ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain.
On a beaucoup.
Ils vont pas bah oui, mais c'est normal, c'est une base de données qui valeur peut-être la plus courante qu'on peut trouver, donc ouais, c'est sûr, on verra. On verra ce que ça dit par la suite.
On va parler d'open source.
Open source.
Lui est toujours open source.
Node 22, donc le runtime JavaScript serveur qui est un runtime qui est maintenant un petit peu shaité parce qu'il y a plein de nouveaux acteurs dans la place.
Ah, c'est plus le seul. C'est plus
Dino, on pense à Ben. Ils viennent en fait bouger un peu les lignes. Et c'est vrai que là, je pense que Node est en train de perdre sa suprématie, même si aujourd'hui, il est largement devant sur l'utilisation. Sauf que toutes ces nouvelles fonctionnalités apportées par les nouveaux acteurs peut-être le poussent à sortir des nouvelles fonctionnalités et des releases peut-être un petit peu plus conséquentes.
Ouais. Bah, c'est bien. Non, mais de toute façon, c'est toujours bien d'avoir d'autres acteurs qui te poussent un peu tout ça, qui te secouent le cocotier pour éviter que Node s'endorme un petit peu sur les lauriers et puis évolue un peu mieux. Tu vois, ça les réveille un petit peu, ça fait du bien. Y avait une news aussi Je l'ai pas mis dans les notes, mais vite fait, je crois qu'il y a Vercel qui a annoncé il y a 3-4 jours là, que le Edge repassait sur Node. En fait, je crois qu'ils avaient un problème. Ils ont essayé de faire du Edge différemment, et là, ils ont annoncé qu'ils allaient repasser les fonctions Edge, tout ça, sur Node, il me semble. Je sais pas si tu avais suivi cette histoire, mais...
Ouais, j'ai vu. J'ai vu. Après, pour nous, utilisateurs, c'était pas... Ça changeait pas, en fait.
Oui,
ça
changeait rien.
C'est une Node incolore, quoi. C'est une Node incolore. Il prouve bien que tous les autres runtime en fait sont pas encore à maturité totale pour arriver sur des grosses infrastructures pour régler tous les cas, tous les edge cases, tout ça. Mais comme on l'avait dit, hein, de toute façon, cette multiplication des runtime et surtout cette optimisation des runtime JS va surtout profiter en fait aux hébergeurs. Aux mecs qui vendent de l'infra, quoi. Ils ont moins de ressources, ils peuvent dire... Enfin, voilà, c'est juste des maths. Donc, ils ont tout intérêt à pousser et à expérimenter ce type de nouveau runtime parce qu'ils peuvent gagner à la fin de la machine, quoi. Donc, clairement.
Donc,
et, si on revient sur Node, qu'est-ce qu'il amène à cette nouvelle version 22
Vite fait, les WebSockets clients activés par défaut, donc WebSockets voilà, disponibles et activés par défaut. Il y a un Watch Mode qui est stable maintenant. Donc, tu sais, quand tu as un mode dev, tu mets Watch, -watch, et puis ça marche.
Ouais. Ça faisait longtemps que c'était déjà en place, mais peut-être
mais
que c'était derrière une feature flag.
Ouais, okay. C'est ça. Et moteur V8 upgradé, tu vois, ils ont plus de puissance. Et, et surtout, un truc qui est en expérimental, ça, mais qui est pas mal, c'est le require et le import qui sont utilisables ensemble, enfin. Si j'ai bien compris.
Ah.
Mais ouais, parce que tu sais, j'hésite pas à dire de conneries, mais quand tu passes en type module sur ton projet Node, après, tu ne peux plus utiliser les requires, tout ça, machin.
Require.
Voilà.
Il te lève une alerte, toi.
Voilà, il te lève des alertes, tout ça, tu ne peux pas. Et donc, avec ce flag-là, tu pourras utiliser les requires sur un système où c'est marqué module au niveau du type dans le package position. Donc,
Il va faire l'espèce de transpilage ou je ne sais pas quoi.
Ouais.
Il va le faire automatiquement, quoi.
Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça évitera des erreurs, c'est plus de mélange de code un peu plus simple, tout ça, donc à suivre, à tester, mais ouais, ça c'est une bonne nouvelle parce que ça devait être un peu compliqué à gérer, quoi, en fonction du code, tout ça.
Et aussi, pour faire une migration de legacy, potentiellement, ça peut être super intéressant, quoi, parce que tu peux faire ta migration progressive sans pour autant être obligé de tout changer, même si aujourd'hui, il y a des librairies qui te permettent de faire l'import, enfin de réécrire les trucs automatiques, mais là pour le coup non, c'est plutôt intéressant.
C'est pas mal, hein.
Et ouais carrément.
Non, moi je me souviens il y a pas très longtemps sur un projet Next en fait, où j'étais passé en import module, enfin en type module, et après j'avais des systèmes comme le post-css.json qui était avec des requires, ça me mettait des erreurs dans tout, tu vois, après t'es obligé de tout changer pour plus d'erreurs en fait, alors que c'est juste du tooling en fait, le post CSS. Donc si on arrive à éviter ces erreurs grâce à ça, c'est top.
Et puis surtout sur une migration où en fait ton problème t'amène un autre problème, puis un autre problème, puis un autre problème, et t'es dans un truc pour changer un micro changement, en fait tu te retrouves à changer beaucoup de choses. Parce que il y a une intrication entre les librairies et entre les specs qui font que tu pètes un câble. Yes. Allez, encore un gestionnaire de package. Encore un.
Encore.
Explique-moi. Je comprends pas.
Ouais, alors c'est tout. J'ai pas encore regardé à fond parce que je l'ai vu hier ce truc. Alors je t'avoue que j'ai pas tout exploré. Oui, un nouveau gestionnaire de package, et surtout c'est un répertoire en fait de package en fait principalement. Et quand tu vas dans les notes en fait, ils disent on n'est pas là pour remplacer npm. Ils se disent superset de npm. En fait. Voilà.
Donc,
Alors ce qui il est TypeScript par défaut. enfin de natif quoi. Donc en fait, tu sais, généralement avec NPM, tu dois rajouter les types si tu rajoutes une librairie où c'est pas inclus, tu dois aller chercher les types pour rajouter le type TypeScript, tout ça. Donc là, a priori, c'est d'office. En fait, il rajoute tout d'office, tu mets le package et tu as déjà tout TypeScript qui est disponible, machin, il n'y a pas besoin de rajouter autre chose. Donc ça, c'est cool. Il est uniquement ECMAScript. Et après, ce qu'ils annoncent, en fait, c'est qu'il marche partout, en fait. Il marque dans toutes les runtimes. Donc, ils disent, aujourd'hui, il y a pas, il y a plusieurs runtimes. On a plus, c'est fini le temps. On n'avait que Node.js, machin. Donc, voilà, notre système marche partout, voilà. Donc, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il apporte par rapport à NPM. Enfin, si, quelque chose comme ça. Mais ils annoncent, ils disent bien dans la doc, tout ça, qu'on n'est pas là pour remplacer NPM. On est juste un superset d'NPM. Voilà. C'était comme une sorte de TypeScript de JavaScript, tu vois. TypeScript rajoute des choses à JavaScript. Bah là, c'est un peu le même principe. Ça rajoute des choses à NPM. Donc... Voilà.
Ok. Bah, comme ça, moi, j'ai du mal à voir la plus-value. Comme ça, là,
c'est clair. Hier, je me suis demandé, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça apporte.
Je vois pas tout de suite le truc, tu vois. Mais ok, why not je ferme pas la porte à tester à voir en fait si on a vraiment intérêt à passer par ça quoi.
Voilà, ils ont une CLI, enfin voilà, je passe les détails, mais ils ont une CLI qui est hyper simple pour publier un package, voilà, il y a plein de choses comme ça, donc on va dire c'est une sorte d'NPM amélioré.
Ok.
Peut-être si on l'utilise, on va dire ouais, c'est trop bien et tout. Ouais. Pour l'instant, on l'a pas utilisé. Alors peut-être qu'on se rend pas compte. Ouais.
Bah, quoi, ouais, après, peut-être que c'est plus intéressant pour les créateurs de librairies, pour les personnes qui publient et qui maintiennent des packages. Peut-être que ça amène plus d'intérêt pour eux, mais pour le simple utilisateur qu'on est en partie, tu vois, même si on a 3-4 packages qu'on a publiés, mais pas, voilà, c'est pas notre activité principale. De simple utilisateur, j'ai du mal à voir le bénéfice tout de suite.
Bah, tu vois, juste en dessous, là, tu as le using JSR package, tu as le Dino, l'exemple qui est juste un peu. Non, juste là, tu vois, tu as l'exemple ajouté. Ouais, tu as tous les exemples Dino, NPX, Yarn, NPN, Bunix. C'est vrai que putain, aujourd'hui, c'est un peu le bordel quand même. Donc, s'il y en a un qui peut être le truc central de toutes ces runtimes, ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas. Au lieu d'avoir 18 000 commandes, avoir juste JSR, par exemple, qui gère toutes les runtimes, ça peut être... Peut-être qu'ils ont, eux, ils savent ce qu'ils font et ils ont la vision des choses, mais que nous, on n'a pas encore cette vision. Ouais.
Et nous, on ne l'a pas compris. Ouais,
ça, non, on ne l'a pas encore compris.
C'est fort possible. C'est fort possible. Allez, petit site, alors qu'on connaît tous, je pense que web.dev, on le connaît tous, parce qu'il y a beaucoup d'articles, beaucoup d'explications, ça a vocation d'être quand même très très pédagogique, donc il y a plutôt des choses de qualité. Et là, en fait, ils reviennent avec, c'est quoi, c'est une sorte de track où on c'est peut suivre...
C'est une formation, c'est une course en ligne sur les basiques de JavaScript. C'est clair et net, c'est basique de JavaScript. Donc, c'est du début, du plus basique aux...
fondamentaux.
Voilà, les donc fondamentaux. On se moquait juste avant l'épisode. Ça peut être un peu utile pour certains développeurs qui connaissent bien React ou jQuery et qui ne savent pas faire les choses en JavaScript.
Ouais.
Donc, souvent, les basiques sont un peu oubliées,
Exactement, et exactement. Comme tu disais, on en parlait avant l'épisode où on se rend compte que beaucoup de développeurs, souvent en formation, vont passer très très vite sur des librairies type JavaScript, comme React ou Vue. Et malheureusement, en fait, ils me disent ouais, monsieur, j'arrive pas à faire ça en React ou en Vue. Et en fait, non, t'as pas besoin de faire ça en React ou en Vue, là c'est du JavaScript pur. Et donc connaître les fondamentaux du langage, en tout cas, c'est quand même toujours hyper intéressant. Et sans doute ce cours qui est, alors pour le coup, la qualité du site n'est pas à discuter. Je pense que le cours est hyper hyper bien amené et super important. Par contre, je vois que c'est que des articles. Il n'y a pas de vidéo.
Faut voir, faut, j'ai pas, je t'avoue que j'ai même pas regardé.
Ouais,
la honte. Ouais, Warner,
non, non, c'est pas gênant.
Il y a du mais, code.
Il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Et, et c'est vrai, aujourd'hui, je vois, pardon, avec, avec les jeunes, pour le coup, on voit beaucoup plus de personnes qui sont en vidéo et qui utilisent la vidéo pour se former et pour comprendre des concepts. Et c'est vrai que la lecture, parfois, est un peu délaissée.
C'est vrai, ils sont plus vidéo aujourd'hui, les générations, ça leur ferait du bien de lire un petit peu. je fais mon vieux
ouais,
con.
L'ancien. Ouais, l'ancien. Non, mais après, le gros avantage aussi, c'est que c'est textuel. Bah, pour le coup, oui, c'est du texte, mais on voit le code. Et parce que sur des vidéos, on n'a pas toujours le code. Et en fait, le fait de voir le code permet de aussi mettre en contexte. Et comme on dit toujours, hein, on passe beaucoup plus de temps à lire le code qu'à l'écrire. Donc, il faut que ça soit facile à lire, facile à faire, à comprendre. Et on comprend bien, si on passe du temps à lire le code, on comprend ce qu'il veut faire, on comprend ce que la personne avait pour objectif. Et donc, c'est hyper, hyper enrichissant de lire du code. Donc, on ne saurait que vous conseiller de lire du code.
Là, c'est en anglais. Je ne sais pas si la version française existe. Il faudra peut-être...
Ah, je n'ai pas fait gaffe.
Français... En plus, c'est en français.
Ah, c'est en français.
Alors là, franchement, il n'y a pas d'excuse. Hein.
Ah, là, vous avez vraiment... Exactement. Il y a vraiment... No, il n'y a plus d'excuse totale. Yes. Lemon Squeezy qui revient avec Wedge. C'est quoi Wedge?
C'est leur librairie interne... deux components React en fait qu'ils ont publié en open source en fait qu'ils ont rendu disponible une de plus j'ai envie de dire.
Ouais, exactement.
Mais elle est construite sur Radix UI et Tailwind CSS, voilà, donc des choses. Radix UI, pour rappel, c'est des components qui sont accessibles, c'est des components React qui sont accessibles, donc accessibilité, tout ça machin. Et Tailwind CSS pour le style. Donc voilà, c'est quand même une librairie qui est basée sur des éléments robustes, donc qui est quand même pas mal. Voilà. Et effectivement, c'est une de plus, j'ai envie de dire. Mais
après, elle a le mérite d'exister, d'être open source. On a un fichier Figma.
Ouais, y a Figma.
C'est payant ou pas?
Non, c'est open source, c'est gratuit. Et en plus, non, ce qui est bien, c'est que Lemon Squeezy, c'est quand même un système, c'est un gros site, c'est une grosse société, donc on peut toujours se dire, étant donné qu'il y a une société derrière qui l'utilise en interne, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être maintenu. Donc c'est toujours plus rassurant, tu vois, de se dire, bah, j'utilise des components, une librairie, mais celle-là, je sais qu'elle va être maintenue parce que Lemon Squeezy, bah, il l'utilise. Donc c'est comme, tu vois, React avec Facebook. Facebook utilise React, donc
bien sûr,
ça va être maintenu. Tant qu'ils utiliseront React, Facebook, bah, ils vont maintenir React. Donc... voilà.
Et pour le coup, Lemon Squeezy, c'est un acteur pour faire du paiement,
des abonnements,
on va
ça,
dire, de Stripe, PayPal, avec des abonnements, soit du one shot, et il va gérer aussi la TVA, il va gérer plein de choses. Ils viennent en fait vraiment solutionner la partie de paiement, quoi. Avec une intégration et une plateforme intéressante pour voir tout le business. Très intéressant. Ok. Allez, on
un des trucs.
On regarde WordPress. C'est qui cette personne? Je ne sais pas. C'est un WordPress spécialiste, mais qui va nous expliquer comment on peut tourner en fait un site WordPress vers un site statique et le déployer sur Cloudflare. Donc, avoir des vitesses de chargement stratosphériques, supprimer toute cette notion de sécurité, de vulnérabilité qui va être totalement effacée parce que le site va être full statique. Intéressant.
Ouais, c'est une petite vidéo d'un quart d'heure, en fait. Donc lui, c'est un Allemand qui est un spécialiste de WordPress, mais qui est vraiment assez poussé. Hein. C'est un expert vraiment dans la performance, tout ça. Il est très bon. Et en fait, sa vidéo, en fait, il explique... l'exemple qu'il donne, en fait, c'est un... On peut avoir, par exemple, un site WordPress qui a été fait il y a longtemps, qui est en ligne, mais qui n'est plus maintenu. Enfin, voilà, qu'on n'utilise plus trop, mais on souhaite que le site reste en ligne, tu vois. Un site d'association, ouais. N'importe quoi. Tu dis, bon, j'ai pas envie de l'entretenir, tout ça, mais j'ai envie quand même que les articles restent en ligne, tout ça. En fait, donc, c'est ce qu'il explique, c'est le cas qu'il donne, en fait. Et donc, il explique comment faire. Donc, il enlève le formulaire, tout ça, tout ce qui est un petit peu dynamique. Il enlève les choses de contact, tout ça. Et ensuite, il garde que les pages de contenu. Et après, via un plugin donc, qu'il installe, ça lui génère toutes les pages en statique. Donc, il récupère le zip et il le met sur Cloudflare. Et donc, il a un site statique WordPress. Donc, ce n'est plus un WordPress, hein, c'est juste des pages HTML. Et donc, ça lui permet de garder en ligne tout son site avec le contenu sans avoir la gestion derrière, en fait, de maintenir le site qui est ancien, tout ça. Des fois, ils sont tellement anciens, les WordPress, que tu n'as pas envie de le faire évoluer parce que ça te prendrait trop de temps. Donc là, avec sa solution, en une heure ou deux, tu arrives à garder ton contenu en ligne tout en étant sécurisé. Tu n'as plus de problème, terminé. Quoi. Voilà. Donc, c'est une solution intéressante.
Intéressant. Et surtout, et tu viens profiter en fait de toute l'infrastructure de sécurité et de performance, de rapidité.
Ah bah ouais,
t'as plus, et t'as plus aussi à payer ton hébergement WordPress, quoi.
Ah oui, complètement. Ouais,
Souvent sur un mutualisé ou sur un truc comme ça, quoi. Après, est-ce que le système marche, on va dire, si tu fais ça toutes les semaines, est-ce que tu peux automatiser ce process-là ou pas du tout?
Non, là, sur la solution qu'il propose, c'est pas automatisé parce qu'il faut... Ça te génère le zip, après tu le récupères et après tu l'uploades sur Cloudflare. Mais c'est vrai on pourrait aller plus loin sur le plugin et rajouter des fonctionnalités pour l'uploader automatiquement sur Cloudflare. Mais je pense pas que ce soit la volonté à la base du mec qui a fait le plugin, qui est open source et gratuit, donc c'est quand même un système qui est gratos et tout. Mais on pourrait complètement éventuellement automatiser le système et peut-être même tous les jours, tu vois... générer le site et l'uploader sur Cloudflare et rester que sur le site statique, par exemple, pour tout le temps. Ça pourrait être une solution. Je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions qu'il faudrait explorer, mais à voir. Ouais. Mais c'est...
Vas-y.
Non, je dis que c'est une bonne solution pour des vieux sites qu'on n'a pas envie de maintenir, parce que souvent, on annonce que... Enfin, c'est WordPress qui annonce qu'il y a 40... presque 50% du web mondial tourne sur WordPress, mais il y a aussi beaucoup de vieux sites qui sont plus maintenus, tout ça, qui sont peut-être vérolés ou n'importe quoi. Donc ça peut être une solution, tu vois, pour un site qui a plus de 10 ans, que tu n'as pas envie de maintenir. Voilà. Et c'est bien quand le contenu reste quand même accessible sur le web, même si c'est vieux.
Ouais. Une sorte d'archive, en fait. Tu viens le mettre aux archives, mais quand même disponible, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça.
Cool. Parfait, trop bien. Écoute, je crois qu'on a fait le tour sur l'actualité. Si vous connaissez des techniques pour mettre du WordPress en mode statique et tout ça, mettez le lien dans la description. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, dites-le nous aussi. On aura plaisir à répondre aux commentaires. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette émission, un grand merci à vous. On remercie toutes les personnes qui nous soutiennent sur le GitHub, financièrement parlant, et tous ceux qui le font aussi via un petit pouce, un petit commentaire, promouvoir le podcast, la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, Patrick.
Yes. Ciao, à plus. Merci.
Retrouvez DoubleSlash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.